François Vatin. Merci.
Merci beaucoup. J'étais à Lille il y a à peu près un an à l'invitation d'une manifestation que vous connaissez peut-être qui s'appelait Cité Philo, et on m'avait demandé de faire un exposé autour de mon ouvrage qui venait de sortir qui s'appelait « Le travail et ses valeurs ». Et j'étais attendu à l'entrée de la salle par un comité anti-travail avec distribution de tracts. Ensuite, bon, ils ont écouté très aimablement la conférence, et puis ensuite des questions groupées, manifestement assez organisées. Pourquoi vous vous occupez de ces questions-là? Marx a tout dit, la question est réglée, le travail c'est pure aliénation, le travail c'est simplement la soumission à l'ordre capitaliste. Alors cette entrée en matière, je la fournis parce que c'est un petit peu ça qui m'a amené à répondre immédiatement favorablement à l'invitation d'André Orléans pour venir aujourd'hui ici, parce que voilà, j'étais très étonné de cette réaction, car Marx dit exactement le contraire. Marx dit exactement le contraire, il le dit dans un extrait notamment que je vais vous lire, que je trouve très, très suggestif et amusant, parce que c'est un extrait dans lequel il critique Adam Smith. Adam Smith qui, dans la Richesse des Nations en 1776, avait implicitement défini le travail comme sacrifice de liberté, de repos, de bonheur. Et voilà ce que nous dit Marx, en jouant bien évidemment sur le prénom du grand philosophe et économiste anglais. « Tu travailleras à la sueur de ton front. C'est la malédiction dont Jéhovah a gratifié Adam, le chassant. Et c'est ainsi qu'Adam Smith conçoit le travail comme une malédiction. Le repos apparaît alors comme l'état adéquat, synonyme de liberté et de bonheur. Que l'individu, se trouvant dans un état normal de santé, de force, d'activité et d'habileté, c'est ici une citation toujours du texte de Smith, hein, cet état normal, que cet individu donc puisse éprouver quand même le besoin d'effectuer une part normale de travail et de suspension de son repos semble peu intéresser Adam Smith. Il est vrai que la mesure du travail paraît elle-même donnée de l'extérieur, par le but à atteindre et par les obstacles que le travail doit surmonter pour y parvenir. Mais Adam Smith semble tout aussi peu avoir l'idée que surmonter les obstacles puisse être en soi une activité de liberté, être donc l'auto-effectuation, l'objectivation du sujet, et par là même la liberté réelle dont l'action est précisément le travail. Alors, le texte que je vous lis là est emprunté, était pris dans les manuscrits du 157, du 158 de Marx, qui s'appelle les Grundrisse, qui a servi en fait de base à l'écriture du Capital, et ça fait l'objet en fait d'une note qui est plus ramassée, moins suggestive dans le chapitre 1 du Capital, mais qui reprend le fond de cet exposé. Donc il faut bien comprendre cet extrait de Marx. Il ne s'agit aucunement de dire que le travail serait pure jouissance. Au contraire, parce que c'est une activité finalisée, hein, projetée vers un but, elle ne peut se penser sans faire référence à un effort. Et je le cite la suite du texte, où maintenant ce n'est plus à Smith que Marx s'en prend, mais à Fourier, à Charles Fourier. Que le travail soit travail attractif, auto-effectuation de l'individu, ne signifie aucunement qu'il soit pur plaisir, pur amusement, comme le pense Fourier avec ses conceptions naïves et ses visions de grisette. Des travaux effectivement libres, la composition d'une œuvre musicale par exemple, requiert à la fois un sacré sérieux et l'effort le plus intense. Marx non plus ne nie pas que le travail puisse être aliéné. Et ça sera ma dernière citation de cet extrait, il rend à cet égard justice à Smith. Sans doute, nous dit-il, a-t-il raison, Smith, de dire que le travail dans ses formes historiques, esclavage, servage, salariat, apparaît toujours comme un travail rebutant, comme un travail forcé, imposé de l'extérieur, en face duquel le non-travail apparaît comme la liberté et le bonheur. Alors, je veux m'arrêter sur ce passage de Marx parce qu'il nous propose en fait une distinction fondamentale entre deux types de contraintes liées au travail. J'appellerai la première la contrainte productive. C'est celle qui permet de comprendre l'effort le plus intense du compositeur, mais aussi de tout travailleur qui a en vue l'œuvre qu'il a à accomplir. Et cela, même dans les formes dégradées de travail, c'est très important à comprendre. Cette contrainte doit se concevoir dans l'acte de travail lui-même, conçu comme tendu vers une finalité productive, un résultat à obtenir. La seconde contrainte relève des institutions sociales de travail, l'esclavage, le servage, le salariat. C'est, dans notre société, la contrainte salariale qu'évoquait André Orléans tout à l'heure. En s'appuyant sur Marx, les anti-travail confondent en fait travail et salariat, acte productif et forme d'encadrement social de cet acte productif. Ils s'appuient en fait sur une tradition tout à fait autre que celle de Marx, qui est en gros la philosophie développée par Hannah Arendt et elle-même largement inspiré de Martin Heidegger, que j'ai du mal à concevoir comme un disciple de Marx. Dans La condition de l'homme moderne, Hannah Arendt distinguait trois modes de ce qu'elle appelait la vis activa. L'action, celle de la vie publique, idéalisée par les Grecs, la politique, la guerre, et c'est en fait la grande référence à ce modèle de la société grecque que Hannah Arendt reprend de son maître Martin Heidegger. L'œuvre, qui est celle de l'artisan, et enfin le travail, qu'elle définit comme pure négativité, entièrement tournée, vers la reproduction physiologique. Et c'est la même thèse, en fait, qui a été reprise récemment par Dominique Méda dans son ouvrage Le travail, une valeur en voie de disparition, qui a publié en 1995 et qui a été très largement discuté. Cela conduit à ce qu'on appelle une définition relativiste du travail. Le travail serait une institution sociale qui serait apparue en gros avec la réforme et aurait triomphé à l'âge industriel. Dans cette perspective, de façon sous-jacente, le travail est en fait assimilé au salariat, c'est-à-dire à la forme sociale de sa gestion. Ce qui pose un double problème. D'abord, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, l'institution salariale est un épiphénomène. Et ceci est valable dans le temps long de l'histoire, mais aussi dans l'espace large du monde. C'est la fameuse question du travail informel si mal défini, comme si les seules formes sociales étaient celles de la société capitaliste et salariale moderne. Ensuite, et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, même dans le cadre salarial, le travail ne peut se résumer à la forme salariale. Cette confusion entre travail et salariat rend obscure tant l'analyse du travail que celle du salariat lui-même, qui ne peut pas être pensé dans sa spécificité. Il est donc opportun de revenir à Marx, puisque cet auteur, qui est, tout le monde le reconnaît, à l'origine de la théorie moderne du salariat, nous a très clairement, comme je l'ai montré tout à l'heure, invité à ne pas confondre les concepts de travail et de salariat, c'est-à-dire à penser le travail préalablement à ses formes d'encadrement social. On peut suivre la chose en reprenant le plan du livre 1 du Capital, qui est composé de 8 sections, ou de 7 suivant les éditions, je ne vais pas rentrer dans les détails. La théorie d'exploitation ne commence en fait qu'à la troisième section du Capital. La première section, très controversée, Orléans l'a évoqué tout à l'heure, est consacrée à la théorie de la valeur et de la monnaie. La deuxième section est une section de transition, Marx appelle ça la transformation de l'argent en capital. C'est là qu'il définit un concept essentiel sur lequel je reviendrai rapidement, qui est celui de force de travail. C'est un verrou essentiel de la théorie, comme vous le savez. Mais c'est donc la troisième section qui m'intéresse, qui est consacrée à la production de la plus-value, ou sur-valeur, dans les nouvelles éditions de Marx, et c'est là que Marx pose la théorie d'exploitation. Or, cette troisième section s'ouvre avec un chapitre étonnant, qui s'intitule « La production de la valeur d'usage et la production de la plus-value », où Marx, en fait, procède en deux temps, en définissant d'abord la production de la valeur d'usage avant d'aborder celle de la plus-value. Il est très significatif de voir que Marx, au moment même où il s'apprête à développer sa théorie de la production de la plus-value, c'est-à-dire d'exploitation capitaliste du travail, éprouve le besoin de présenter préalablement le procès de travail comme une catégorie préalable à celle du processus d'exploitation. C'est là qu'il développe sa définition générique du travail, en évitant de ramener le travail à sa forme sociale particulière qu'est le salariat. Je vous le cite ici, c'est le capital. Le travail est d'abord un procès qui se passe entre l'homme et la nature, un procès dans lequel l'homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action. Il se présente face à la matière naturelle comme une puissance naturelle lui-même, mais en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie aussi sa propre nature. Texte très célèbre et qui se poursuit par cette célèbre métaphore de l'abeille et de l'architecte en développant cette idée que la différence, c'est que l'architecte pense d'abord son œuvre avant de la réaliser, et on a bien cette idée du travail comme action finalisée. Alors, il est très intéressant de relire ces pages qui anticipent une démarche d'anthropologie technique qui ne se développera qu'au XXe siècle, avec un auteur comme André Leroy-Gourhan, qui n'a aucune connivence philosophique avec le marxisme, mais aussi un auteur comme André-Georges Audricourt, qui est lui un marxiste convaincu, dont les œuvres ont été réunies sous le titre « La technologie science humaine ». Et Marx, déjà, cite à cet égard Benjamin Franklin, « L'homme est un animal fabricateur d'outils ». Autrement dit, il ne s'agit pas ici de nier l'exploitation du travail, ce n'est pas à Marx qu'on va faire ce reproche, mais bien d'affirmer que le travail n'est pas réductible au cadre social de sa gestion dans la société capitaliste. Alors ça nous conduit à revenir à une question que j'évoquais tout à l'heure, le concept de force de travail. On sait que c'est un concept essentiel pour la théorie marxienne de l'exploitation. En effet, ce modèle, la force de travail est la marchandise vendue sous le nom de travail. En fait, nous dit Marx, le capitaliste n'achète pas le travail, mais simplement une potentialité de travail. On a souvent mal compris force de travail en fétichisant, ça ne veut rien dire d'autre qu'une potentialité de travail. On achète, je dirais, une capacité à produire du travail. La théorie de la plus-value en découle, comme vous le savez, hein, la force de travail est attachée à sa valeur, celle correspondant à la valeur des biens nécessaires à sa reconstitution, mais en produisant du travail, elle peut produire plus de valeur qu'elle n'en a coûté. C'est cette plus-value ou sur-valeur qui est au fondement de l'exploitation capitaliste. Mon objectif ici n'est pas du tout de discuter cette théorie, hein, c'est une théorie qui pose beaucoup de problèmes. Karl Polanyi, par exemple, a reproché à Marx d'être resté trop proche de Ricardo, hein, a dit que travail ou force de travail, c'était la même chose. De toute façon, de penser le travail comme une marchandise était une erreur, ce n'est pour Polanyi, nous dit-il, qu'une marchandise fictive. Ce n'est pas mon problème de discuter ici de la pertinence ou non de cette théorie d'exploitation dans sa formulation classique. Ce que je veux simplement souligner, c'est qu'en posant le concept de force de travail, Marx a essayé de définir les conditions dans lesquelles le capital saisit le travail. La force de travail, c'est le travail saisi par l'économie capitaliste. Et encore une fois, le travail lui-même, comme acte productif, n'est pas réductible à la force de travail. À cet égard, il faut bien dire que c'est ainsi que Marx a défini, mieux que tous ses contemporains, le concept de salariat, c'est-à-dire justement la façon dont le travail peut être saisi par le capital. C'est d'autant plus frappant que la forme salariale pure est en fait encore assez peu représentée. C'est à la fin du XIXe siècle, les juristes, d'une certaine manière, vont rendre hommage à Marx en définissant le contrat de travail par ce qu'ils appellent le principe de subordination juridique et technique. Et il est frappant de voir que l'économie libérale elle-même reprend abondamment, sans jamais citer Marx bien évidemment, le concept de force de travail au début, fin 19e, début du 20e siècle. C'est présent dans tous les ouvrages parce que ça permet précisément de penser le salariat que les économistes libéraux au 19e siècle avaient beaucoup, beaucoup de mal à penser. Je n'ai pas le temps de développer ça. Pour conclure, autour de mon analyse des ambivalences, de la richesse de l'analyse du travail par Marx, on peut bien sûr avoir à partir de là une lecture messianique de cette thématique. Et Marx, à certains égards, n'y a pas échappé. Hein. Le travail serait entravé par le salariat. La révolution communiste, en mettant à bas le salariat, va libérer le travail et permettre enfin le développement harmonieux de l'homme créateur. Mais la leçon de Marx me semble pouvoir être entendue sans adhérer forcément à ce messianisme, à cette promesse de libération finale. C'est ici et maintenant que le travail est tout à la fois contrainte et liberté, acte productif et lien social, construction de soi et dépendance à l'égard des autres. Les conceptions de Marx ont été à cet égard amplement confirmées et complexifiées par une abondante littérature sociologique que je ne pourrais pas aborder ici. Et pour poser ces questions, il faut, à mon sens, préalablement, renoncer à un débat stérile, parce que trop général, sur le statut social du travail, sur la valeur sociale qu'il représenterait ou ne représenterait pas. Le travail n'est pas en soi une valeur, ce n'est pas une institution sociale ou un rapport social. C'est d'abord un acte productif. Il n'a de valeur que parce qu'il est réputé productif. Il est bien évidemment très compliqué de voir comment s'opère cette reconnaissance productive, par quelle médiation sociale de mesure de la valeur économique des travaux et des produits s'opère cette reconnaissance productive. J'ai consacré récemment un ouvrage avec mes doctorants, anciens doctorants, sous le titre « Évaluer et valoriser, une sociologie économique de la mesure ». Et on essaye d'y montrer comment, c'est en saisissant le travail dans le concret des activités productives, on peut essayer de donner une réponse à ces questions. Et à cet égard, je pense que les réflexions sont très convergentes avec ce que vient de dire André Anderlon tout à l'heure. Je pense qu'en faisant ça, on se situe effectivement là aussi dans le droit fil de l'ouvrage de Marx, mais dans cette lecture finalement libre de Marx. C'est-à-dire, comme il était dit tout à l'heure, il ne s'agit pas du tout de prendre Marx comme un texte religieux qui aurait répondu à toutes les questions. En particulier, je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, sa théorie de la valeur travail, sur laquelle je n'ai pas pu m'arrêter, reste trop marquée par une conception énergétiste du travail qui conduirait à penser la production comme une sommation de temps de travail. Ce n'est manifestement plus tenable dans un contexte d'automatisation, de tertiarisation généralisée de l'activité. C'est ce qu'avait remarquablement montré dès les années 1960 Pierre Naville, le sociologue Pierre Naville, dont je dirais l'adhésion à la pensée de Marx ne saurait être mise en cause. Autrement dit, le chantier reste encore très largement ouvert, mais Marx nous aide encore à le penser.
Merci beaucoup François. Tu as respecté parfaitement le temps aussi.
Oui,